Bonjour à tous, je m'appelle Mélissa Barra, j'ai 24 ans et je viens tout juste de m'embarquer à bord du vaisseau de l'Atelier des médias en tant que journaliste apprenti. Alors je suis dans une école de journalisme qui est à Paris, qui s'appelle le CELSA, et je suis très contente de pouvoir, avec Ziad, voyager dans la galaxie des internets.
Bienvenue Mélissa, tu t'embarques avec Ziad, avec Simon aussi, avec Pierre qui est aux manettes aujourd'hui, avec Manon aussi, avec Dilette dans la grande famille de l'Atelier des médias. Bienvenue à vous.
Très bien Internet, qu'attendez-vous de nous ?
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous.
Depuis 13 ans, les équipes du Petit Journal informent quotidiennement les expatriés et les francophones de plus de 40 villes dans le monde. Comment fonctionne ce média international? Pourquoi est-il peu présent en Afrique? Nous en parlons cette semaine avec Hervé Hérault, fondateur et président du PetitJournal.com. Nous le retrouvons dans quelques instants. En fin de première partie, Marie-Catherine Butte nous donne quelques nouvelles des médias et de l'innovation depuis les États-Unis où elle réside. Elle nous parle aujourd'hui d'argent et de réseaux sociaux. Dans presque une heure, Francis Pisani nous explique les difficultés du dialogue sur les villes entre les Chinois et les Français.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Concept original, lepetitjournal.com est le rendez-vous quotidien des Français à l'étranger. Dédié aux expatriés et aux francophones, gratuit, indépendant et entièrement en français, il regroupe actualités internationales et locales. Disponible sur Internet, smartphone ou votre boîte mail, lepetitjournal.com vous apporte toute l'information que vous désirez à l'endroit où vous vous trouvez. Alors, où que vous soyez, rejoignez-nous.
Bonjour Hervé Hérault.
Bonjour.
Tu es fondateur du PetitJournal.com, un site qui s'adresse en priorité aux Français de l'étranger, qui a d'ailleurs des partenariats avec plusieurs médias, dont RFI pour la chronique Vivre ailleurs, qu'on peut entendre le week-end sur les antennes de RFI. Étrangement, nous n'en avons jamais parlé du Petit Journal dans l'Atelier des médias, alors que ce projet a presque 15 ans.
Oui, j'ai créé le PetitJournal.com en janvier 2001. Je vivais au Mexique à cette époque et j'ai réalisé qu'il y avait un besoin non exprimé de la part de la communauté française, à la fois de maintenir le lien avec la France et de s'informer localement en français. Donc j'ai eu l'idée de créer un quotidien en ligne, gratuit, indépendant, autofinancé, financé par la publicité, par les annonceurs, et qui s'adresse effectivement aux Français expatriés en leur présentant un mélange d'informations générales, d'informations thématiques autour de l'expatriation et d'informations locales en français. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a eu rapidement un grand succès au Mexique, mais ça a dépassé seulement le cadre des Français, puisqu'on a aussi intéressé les Mexicains francophones et les autres nationalités parlant le français, puisque tout le contenu est en français.
C'est quoi ton parcours à toi avant de lancer ce projet? Donc en 2001, c'est très tôt par rapport au projet Internet, et 13 ans, c'est beaucoup pour un projet Internet aussi, parce que souvent les projets qu'on lance sur Internet n'ont pas une longue vie. Comment ça s'est passé alors? C'est quoi ton parcours alors?
En fait, je suis journaliste de formation, je suis diplômé du CFPJ, je viens de la presse quotidienne régionale, j'ai travaillé également en presse professionnelle, et puis pour des raisons personnelles, parce que ma femme a reçu une proposition pour partir en expatriation, donc au Mexique, en 1998, on a fait nos valises, et je me suis demandé, en arrivant au Mexique, ce que j'allais faire, et j'avais déjà un intérêt fort pour l'Internet, c'était vraiment le début, et j'ai décidé de changer de métier, de me reconvertir dans la création de sites web, donc j'ai commencé pour des clients principalement des PME, des PMI. J'ai travaillé pour un exportateur de cactus, une clinique de chirurgie esthétique, un installateur d'antenne, mais ça m'a surtout permis en fait de comprendre ce qu'on pouvait faire avec ce média et d'en mesurer également la puissance. Et puis parallèlement, comme je le disais, j'ai vu comment vivait la communauté française à Mexico et je me suis dit mais vraiment ce qui leur manque, c'est un quotidien, c'est vraiment d'avoir le quotidien comme on avait avant, le journal dans sa boîte aux lettres, ou le gratuit qu'on trouve dans le métro, qu'on peut lire rapidement rapidement, facilement, et qui va donner une information transversale, parce que chaque association éditait bien évidemment son bulletin, mais ça dépassait jamais ce cercle-là. Quand on vit dans une ville comme Mexico de 25 millions d'habitants, qui est immense, même si l'espagnol c'est très facile de finalement très rapidement on peut lire le Reforma et s'informer, mais il nous manque des clés de compréhension, du décryptage, on se sent perdu, on se sent étranger tout simplement. Et l'idée c'était vraiment de à la fois de s'intéresser au pays où on vit, de donner de l'information communautaire, c'est-à-dire de faire circuler l'information au travers de cette communauté, et puis de donner de l'information service pour faciliter la vie au quotidien des Français à Mexico, et puis après on l'a fait dans d'autres pays.
Comment ça s'est passé alors cette évolution? Tu dis l'accueil a été positif. Qu'est-ce que ça a été cet accueil? Qu'est-ce que ça veut dire positif? Et comment tu as pu donc en 13 ans multiplier les sites? On va en parler.
L'idée de départ, c'était évidemment, c'était une invention, on peut dire, et puis après, c'est devenu de l'artisanat. Donc j'ai vu le nombre de lecteurs augmenter, et puis j'ai commencé, parce que dès le départ, l'idée, c'était quand même une entreprise privée, c'était évidemment de pouvoir se financer via la publicité. Donc j'ai commencé à vendre, à avoir un client, deux clients, trois clients, puis ça a grandi, j'ai recruté une personne, deux personnes. Après, j'ai pris un bureau. Enfin voilà, ça a été vraiment l'évolution naturelle, et je suis allé vers l'entrepreneuriat, en fait. J'ai changé de métier, je suis devenu chef d'entreprise. Ça a été vraiment la genèse du projet de 2001 à 2005. C'est vraiment au Mexique que j'ai rodé le concept, que j'ai appris sur le lectorat, sur l'information, sur la segmentation, puis également sur l'offre publicitaire. Sur également le web commençait déjà à changer très rapidement. Et puis en 2005, j'ai changé de pays. On est parti en famille du Mexique en Thaïlande où on a vécu 6 ans ensuite. Et je me suis dit, puisque ça marche à Mexico, pourquoi ça marcherait pas dans d'autres villes où il y a des communautés françaises et francophones? Et comment faire? Évidemment, j'avais pas les moyens pour ouvrir des bureaux un petit peu partout. Et j'ai eu l'idée de franchiser le concept et en me disant, moi je peux expliquer comment faire, je peux transmettre mon savoir-faire, et puis on peut mutualiser les moyens. Quand on ouvre une deuxième édition, une troisième édition, une quatrième édition, on n'a pas besoin d'avoir 4 serveurs, on n'a pas besoin d'avoir 4 webmasters, on a des contenus, on a tout un tas de contenus qu'on peut partager. De toute façon, le web, c'est ouvert. Donc l'idée, c'était de se dire, je suis sûr qu'il y a des gens qui seront intéressés pour ouvrir des éditions locales. Et en 2005, donc quand je suis arrivé à Bangkok, on avait 3 villes. On venait de démarrer Buenos Aires et Barcelone. Et aujourd'hui, on est présent dans 45 villes dans le monde via ce réseau de partenaires indépendants.
Donc comment ça se passe concrètement?
Alors concrètement, en fait, nos partenaires font, on attend eux, donc ce sont vraiment des partenaires indépendants, on signe un contrat commercial avec eux, avec la société mère, on va dire, qui est basée en France, à Paris. Et on attend deux, trois missions principales. La première étant évidemment la production des contenus. On est un journal, c'est pas parce qu'on est gratuit que les gens nous lisent, c'est parce que les informations sont bonnes, à jour, bien actualisées, variées, bien écrites, qui s'adressent à l'ensemble de la cible, parce qu'on est lu aussi bien par, on est généraliste malgré tout, c'est notre communauté qui nous unit, mais on y retrouve des gens aussi divers que des jeunes, des vieux, des actifs, des inactifs, des gens qui s'intéressent à la politique, d'autres au sport, d'autres à l'économie, donc c'est très très divers, donc il faut aller vers l'ensemble du public. Puisque c'est une niche, donc il ne faut certainement pas évidemment la rediviser. On leur demande, ça c'est la partie vraiment production des contenus, on leur demande d'assurer la promotion locale du journal, c'est-à-dire se faire connaître. On n'est pas un blog, ça n'a évidemment rien de péjoratif, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir conquérir le maximum de lecteurs sur la cible pour après aller vers la troisième mission, qui est la mission de commercialisation des espaces publicitaires locaux. Et c'est là en fait où finalement notre modèle prend tout son sens, puisqu'il s'agit vraiment d'un partage de charges, de l'investissement et un partage de revenus. Puisque en fait le contenu local, les partenaires en fait qui produisent leur contenu local bénéficient de l'environnement publicitaire qui va avec, donc à eux évidemment de convaincre les annonceurs qui veulent toucher les Français de Thaïlande quand il s'agit de l'édition de Bangkok, les Français du Brésil quand il s'agit des éditions de Sao Paulo et de Rio, et là on va trouver toute une série d'annonceurs cibles, et donc en fait on a dans les missions confiées à nos partenaires des missions de commercialisation, et nous de notre côté on va apporter en fait
vous de votre côté, c'est-à-dire le siège. Voilà, le groupe, le petit journal.
Oui, donc le siège, en fait, on va apporter des services support à nos partenaires pour les aider à réussir. Alors aujourd'hui, évidemment, on apporte une marque qui est reconnue, qui est assez leader sur son marché, puisqu'on a maintenant plus de 500 000 lecteurs dans le monde.
Par mois.
Par mois, absolument, oui. Et on a un concept qui est rodé, on sait qu'il fonctionne, on sait ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne, même si on essaie évidemment toujours de l'améliorer. Et puis, on apporte des services au quotidien. Donc, dans les services au quotidien, on va avoir des services rédactionnels, puisqu'il y a des contenus qu'on achète notamment à l'agence France Presse, il y a des contenus qu'on produit nous, qui sont partagés, il y a des contenus, on donne vraiment également du feedback au niveau éditorial pour aider nos partenaires à faire le meilleur journal possible de façon la plus efficace possible.
Du feedback, ce sont des retours, tout simplement.
C'est exactement ça, oui, c'est des retours, des conseils. On va voir par exemple qu'un dossier ou un sujet a bien marché dans un pays, ben on va essayer de, on va alerter le réseau en disant, ben c'est peut-être intéressant également que vous pouvez le faire de votre côté. On monte des sujets transversaux. Enfin voilà, on essaie d'avoir une vraie animation éditoriale. On vérifie aussi ce qui, au niveau statistique, ce que consomment nos lecteurs par pays, puis au global. On apporte tout le support informatique. Donc en fait, nos partenaires ont vraiment besoin d'aucune compétence particulière. On va leur donner des codes d'accès pour rentrer leurs articles, valider leurs petites annonces, mettre en place les publicités, consulter leurs statistiques. Ils auront évidemment des comptes mails, on héberge tout. On a édité des guidelines sur Facebook qui nous ont fait passer de 5000 fans il y a 2 ans à 90 000 aujourd'hui sur l'ensemble de nos éditions, bien entendu. Donc a priori, c'est des conseils qui étaient bons. Et puis, on apporte évidemment des outils d'aide à la vente avec des modèles de kit média, de plaquettes, d'arguments, de fiches techniques et vraiment une formation commerciale aussi, à la fois aux produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend, comment on s'adresse aux annonceurs, quels sont les différents supports de communication qu'on peut leur proposer et comment monter les offres commerciales, et puis plus métier, c'est-à-dire comment organiser sa prospection, comment mesurer sa performance commerciale. Donc il y a un vrai environnement. Et dernier point, et qui n'est pas le moindre finalement, c'est que on travaille également beaucoup sur la communication interne dans le réseau pour vraiment faire jouer l'effet de réseau. L'idée, c'est que l'expérience de chacun profite à tous, qu'il y ait vraiment un vrai partage d'expérience. Donc ce qui marche bien à Madrid, à Shanghai, à Mexico, ben on essaie de le faire partout, et puis ce qui marche pas dans telle ville ou telle ville, ben on va essayer de soit d'ajuster, soit de l'abandonner, mais on est vraiment dans du try and learn, faut essayer, tester. On est vraiment dans le partage d'expérience. Au départ, c'était mon idée et j'avais mon savoir-faire, mais aujourd'hui, on a le savoir-faire de tout un réseau de plus d'une centaine de personnes qui travaillent dans le petit journal dans le monde. Et donc ils peuvent donner leur retour d'expérience, apporter leurs idées, voir ce qui se passe ailleurs, faire évoluer notre média, puisqu'on se rend compte également que sur le web, ben, on est dans une évolution permanente.
Et d'un point de vue commercial, comment ça se passe? Parce que finalement, du coup, vous allez fonctionner par rapport à la pub en particulier. Chacun va être responsable de trouver, j'imagine, des annonceurs en fonction de la zone où il se trouve, de la ville où il se trouve. Ça transforme aussi, j'imagine, des journalistes responsables locaux en VRP ou en représentants du site pour trouver des annonceurs, pour trouver de l'argent. Est-ce que ça fonctionne?
Au niveau des profils des partenaires, en fait, il y a effectivement, par exemple, bon, mon exemple, hein, je suis un journaliste de formation, je suis devenu un entrepreneur, un chef d'entreprise. Ce qu'on recherche, évidemment, c'est des gens qui souhaitent, c'est des entrepreneurs, en fait, vraiment avant tout. Alors, ce sont des petites entreprises, ce sont pas des montants d'affaires très très importants, mais c'est vraiment ça doit vraiment être l'âme de ces gens-là. Alors, certains viennent effectivement de la rédaction, du journalisme, ce sont des gens qui souhaitent se mettre à leur compte, qui ont vraiment cet esprit indépendant. D'autres viennent du commercial, du marketing, du relations publiques. Donc, et dans ce cas-là, en fait, l'idée, c'est vraiment que chacun arrive à s'entourer en fonction de ses compétences. Donc, si on a des gens avec des profils plus éditoriaux, on s'entourait davantage peut-être de gens avec des profils plus commerciaux. Et puis, inversement, quand on a des profils plus commerciaux, on va les encourager évidemment à s'entourer de profils éditoriaux. Ensuite, tout dépend aussi des tailles de marché, de ville, de l'évolution des éditions, parce que bien souvent, le partenaire démarre seul. Donc, effectivement, il est un petit peu obligé de tout faire. C'est pas toujours évident de mener les deux de front, notamment vis-à-vis des annonceurs qui souhaitent plutôt toujours avoir de l'éditorial gratuit comme on peut l'imaginer, mais même si dans l'ensemble évidemment ils jouent le jeu, mais à la fois on a développé des discours, des savoir-faire, des formations, et puis très rapidement, je vais dire, du moment où les éditions grandissent et où les partenaires arrivent à s'approprier le projet, se voient vraiment comme des entrepreneurs, ils arrivent à compléter leurs équipes en fonction des compétences qui leur manquent. On constate également que finalement aujourd'hui c'est relativement facile de trouver des compétences et des ressources rédactionnelles. Il y a quand même beaucoup de gens qui veulent écrire, qui sont pas forcément des journalistes diplômés avec l'étiquette et la formation de journaliste, mais en tous les cas des gens qui veulent écrire.
Il y a beaucoup aussi d'apprentis journalistes en France qui font des stages dans les différentes rédactions du Petit Journal. J'ai entendu ça des dizaines de fois.
Absolument, on accueille beaucoup de stagiaires, parce que c'est vrai que les stagiaires sont souvent sollicités pour des stages à l'international, et aujourd'hui, à part l'agence France Presse, un petit peu quelques bureaux à droite à gauche, mais finalement on est un gros pourvoyeur en effet de stages. On travaille d'ailleurs notamment avec l'école de journalisme de Nice sur leur master de journalisme à l'international. Et en fait, on a vraiment ce qu'on constate, c'est qu'on a également des gens qui simplement veulent écrire, soit pour se faire connaître, soit pour se faire plaisir. Donc on a également des contributeurs bénévoles, on a aussi des pigistes professionnels qu'on rémunère, qui travaillent pour d'autres journaux et qui vont compléter à la fois leur rémunération mais aussi par rapport à leur centre d'intérêt. Donc c'est assez vaste, il y a une dimension un petit peu bricolage, hein, il faut reconnaître, mais faut pas oublier aussi que voilà, on a 13 ans, qu'on est sur un média qui est en perpétuel mouvement, qui se lance, donc on est en train de construire aussi un petit peu en marchant, on apprend un petit peu en marchant.
Hervé, je te propose de marquer une courte pause pour écouter la chronique américaine et hebdomadaire de Marie-Catherine Beut. On se retrouve juste après.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're tuned to the international sound.
Bonjour Marie-Catherine Beut.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Tu souhaites aujourd'hui nous parler argent et réseaux sociaux.
Oui, on va commencer par une annonce ici lundi. Snapchat, une messagerie mobile éphémère, a annoncé un partenariat avec Square. Square, c'est une plateforme de paiement mobile qui a été lancée par un des cofondateurs de Twitter. Et Snapchat et Square lancent ensemble Snap Cash, qui permet d'envoyer de l'argent, 5 dollars, 6 dollars, un peu plus, un peu moins, aussi simplement que vous envoyez un SMS. Autrement dit, vous commencez à taper un message et puis un logiciel va reconnaître que vous avez mis le symbole dollar devant un montant et va vous proposer de cliquer sur un petit bouton vert pour transférer cette somme d'argent à votre interlocuteur. Snapchat n'est ainsi pas le premier à expérimenter avec l'argent et la messagerie. Facebook, qui expérimenterait en secret avec son application de messagerie Messenger pour autoriser de tels transferts, Twitter mène des expérimentations similaires et déjà sur Gmail, donc la messagerie email de Google, vous pouvez petit bouton dollar pour envoyer de l'argent connecté à votre portefeuille numérique en ligne.
On peut imaginer pourquoi ces acteurs de la communication s'intéressent à l'argent mobile. On a déjà vu les grands opérateurs de téléphonie investir dans le transfert d'argent. Quelle est pour toi la stratégie à long terme des réseaux sociaux dans ce domaine ?
La première idée pourrait être tout simplement de vouloir tirer de la puissance de la recommandation sociale pour vendre plus de produits. Autrement dit, de jouer un petit peu les Amazon ou eBay 2.0 en permettant à des utilisateurs qui parlent à longueur de journée les uns aux autres de produits, d'articles, de choses qu'ils voient et qu'ils aiment, de connecter toutes ces conversations-là à de la transaction. Autrement dit, ce serait offrir une fonction très utilitaire de l'argent à des grosses audiences qui ont été amassées par Facebook, Twitter, etc. au fil des années. Mais à mon avis, ce n'est pas la seule intention de ces réseaux sociaux, puisque ces transactions passent énormément par la fonction de messagerie et pas uniquement par le partage ou l'application d'un bouton acheter. Un des acteurs qui a très bien compris cela est un nouvel entrant de ce monde de la communication sociale et financière. C'est une application mobile qui s'appelle Venmo et qui est très populaire ici aux États-Unis pour régler des sommes allant de rembourser un apéro à payer votre loyer entre particuliers. Et cette application permet à ses utilisateurs de suivre, comme on suit sur un fil Twitter, l'ensemble des transactions qui se passent dans votre réseau. Donc je pourrais par exemple voir qui de mes amis vient de rembourser qui de ses contacts pour telle ou telle opération, et donc en déduire que, eh bien hier, Bob et Jenny étaient au brunch à tel endroit, que l'addition dans ce bar-là était très élevée, et les utilisateurs, notamment les moins de 30 ans, adorent cette application pour cette dimension totalement sociale et conversationnelle que révèle une transaction a priori totalement utilitaire, financière, sans grand intérêt.
Est-ce que pour toi, c'est une tendance à suivre en 2015, l'intérêt des réseaux sociaux ou l'arrivée de nouvelles applications qui permettent donc l'échange d'argent, le paiement de services entre amis, etc.
Absolument. Je pense qu'on est encore vraiment tout au début de cette histoire, que ce sont essentiellement des expérimentations qui sont menées par les uns et par les autres. À voir si ça se confirme en 2015 ou non. En tout cas, ce sont de nouveaux usages, pas forcément attendus, qui sont en train de se dessiner.
Merci Marie-Catherine. Je rappelle qu'on peut également te lire sur ton blog du Figaro, Étreinte Digitale. On peut retrouver ton projet NOD, News on Demand, sur les magasins d'applications en ligne. On peut enfin lire, écouter toutes tes chroniques sur ton blog de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Courte pause dans dans l'atelier. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous serons toujours avec notre invité Hervé Hérault, fondateur et président du petitjournal.com. A tout de suite. Atelier des médias, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes cette semaine avec Hervé Hérault, ancien journaliste, fondateur et président du petitjournal.com, ce site d'information présent dans plus de 40 villes dans le monde qui propose des actualités quotidiennement aux Français et aux francophones. Dans une vingtaine de minutes, il sera question de ville également avec Francis Pisani qui nous explique aujourd'hui les difficultés du dialogue sur les villes entre les Chinois et les Français.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuse.
Et vous.
Hervé Hérault, d'un point de vue éditorial, comment ça se passe concrètement? Vous avez 45 partenaires, en tout cas c'est comme ça que vous appelez vos rédactions, vos rédacteurs dans différentes villes du monde. Ces rédacteurs vont essentiellement produire des contenus locaux, ayant pour vocation d'intéresser les populations francophones de ces régions-là, c'est ça? C'est quoi les grandes lignes éditoriales? C'est très pratique ou c'est plutôt une information générale?
Alors localement, on va retrouver partout trois types d'informations. La première, c'est s'intéresser au pays où on vit. Donc on est des Français de l'étranger, mais on est curieux, on est intéressé. Quand on vit à Bangkok, on veut savoir ce qui se passe en Thaïlande. Quand on vit à Singapour, on veut savoir ce qui se passe sur place. Donc c'est s'intéresser au niveau politique, social, culturel, économique, des traditions, des festivals, des idées de week-end, de sorties. Et là, ce qu'on doit apporter, c'est des clés de décryptage. C'est comprendre parce que on maîtrise mal la langue du pays, parce que on a du mal à s'informer dans une autre langue, ou parce qu'on est dans une grande ville, qu'on est un peu perdu, qu'on est un peu déraciné. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à donner de l'information en français sur ces pays-là, loin de là. Mais notre idée, c'est vraiment, on n'est pas dans de l'investigation, on n'est pas dans du scoop, on n'est pas les premiers sur place. On remplace pas les agences ni les grandes chaînes d'information comme la vôtre, loin de là. Mais l'idée, c'est plutôt de pouvoir les compléter et d'apporter des éclairages sur des points de vue évidemment souvent français, mais qui, je dirais, s'appuient sur des expertises, des analyses, des interviews pour aider notre public à comprendre son environnement.
Un exemple de contenu de cet ordre-là?
On a fait un grand dossier sur la Coupe du Monde vue par les Brésiliens. Donc interviewé par des Français, mais voilà, on trouvait que c'était intéressant là pour le coup, puisqu'on était sur place, d'avoir aussi on a interviewé une étudiante, un patron, un prof, peut-être une personne défavorisée. Enfin voilà, il y avait différents profils qui donnaient leur ressenti sur la Coupe du Monde. Donc avant la Coupe du Monde, on a fait ce type de dossier. Et après, ce qu'on retrouve, c'est de l'information communautaire, c'est s'intéresser à notre public.
Ça, c'est la deuxième, ouais, le deuxième type de contenu.
Deuxième type de contenu qu'on retrouve, c'est-à-dire aller à la rencontre des Français. Qu'est-ce qu'ils font localement? Donc, bon, évidemment, ça va inclure la relation bilatérale, institutionnelle entre la France et puis le pays, donc l'ambassade et puis toutes les institutions qui tournent autour, donc consulat, lycée français, chambre de commerce, UbiFrance, les grandes associations UFE, ADFE et ainsi de suite, et puis tous les relais associatifs. Alors, ça peut être aussi bien les joueurs de cartes, le Rotary ou quoi que ce soit d'autre, tout le tissu en fait, tout le tissu français, tous les relais, parce que voilà, comme je le disais, ils éditent la plupart leurs propres bulletins, mais bon, ça va jamais au-delà. Donc ça permet aux Français de savoir un petit peu ce qui se passe davantage dans cette communauté. On n'est pas du tout dans les ragots de la communauté, mais plutôt justement de s'informer, de savoir effectivement dans quoi les entreprises françaises investissent localement, de faire des portraits d'entrepreneurs, de chefs, de parler de bénévoles qui sont dans des associations, dans des ONG, de parler d'artistes qui sont résidents ou qui sont de passage, pourquoi pas de sportifs. Donc c'est vraiment de découvrir aussi que cette communauté, elle est beaucoup plus vaste que ce qu'on a souvent tendance à penser. C'est-à-dire que nos lecteurs, on les trouve très souvent autour de l'ambassade et autour des lycées au démarrage, mais après on découvre des gens qui ont des parcours complètement surprenants, divers. Ils ont monté des entreprises, qui sont chercheurs, qui sont des scientifiques, qui sont des retraités, enfin voilà, des gens, des profs, des gens qui ont des parcours beaucoup plus inattendus, originaux et variés. En fait, c'est que ces communautés françaises, elles sont beaucoup plus variées que celles que on pourrait se limiter du cadre expatrié.
Il y a un troisième type de contenu.
Oui, c'est toute l'information service. Donc évidemment, l'idée, c'est quand on vit à l'étranger, bah, on n'a pas ses repères, on est sorti de ses habitudes, de son quotidien. Donc on a aussi un manque, une difficulté d'accès à l'information. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à nos lecteurs de leur gagner du temps, de leur faciliter la vie, c'est de leur signaler. Donc on a tout un agenda qui est extrêmement consulté, avec beaucoup de sorties évidemment, mais ça peut être aussi des conférences, des séminaires. On signale des choses bêtes, les jours fériés, les grèves, les travaux sur certaines rues. Enfin, là, on est vraiment dans la dimension bloc-notes et faciliter la vie, et puis donner des idées de, voilà, de sorties, de choses à faire, de week-ends, de musées à visiter, d'expositions, de concerts. Et là, on est vraiment dans l'idée d'être une force de proposition, de pouvoir proposer aux gens de sortir et de pas s'enfermer chez eux.
Une des difficultés de ce type d'organisation, c'est que vous dépendez d'annonceurs qui sont souvent, j'imagine, des acteurs locaux qui ont un intérêt à viser la communauté française, et que en même temps vous faites de l'information, et du coup il doit y avoir parfois des conflits d'intérêts ou des choses dont vous ne pouvez pas trop parler. Est-ce que ça, c'est des difficultés que vous rencontrez pour vos éditions locales et pour le média en général?
Alors, j'allais dire pas tant que ça, même pas vraiment, pour notamment une raison, c'est que on n'est pas un journal d'investigation, on n'est pas un journal polémique. Alors bon, évidemment, s'il y a des faits très graves je sais pas, s'il y a un scandale qui va secouer dont tout le monde va parler, on va pas se boucher les oreilles et les yeux, bien entendu, et on en parlera également, mais on est un vrai journal communautaire, et on est un vrai journal. On pourrait vraiment se comparer davantage à de la PQR.
Donc la presse quotidienne régionale.
Oui, la presse, exactement. Et on fait vraiment partie de l'écosystème, en fait. Et il faut imaginer quand même que ces communautés françaises, elles sont souvent réduites. C'est pas tant de monde que ça. C'est un petit monde. Donc on se connaît. On n'est pas dans la complaisance, mais on n'est pas non plus dans un journalisme négatif qui va chercher la petite bête, ou surtout la polémique, en fait.
Alors, vous êtes présent aujourd'hui dans 45 villes. Quand on va sur le site lepetitjournal.com, on a accès aux différentes éditions. Je me suis promené évidemment sur le site. Il y en a qui sont très actives, quelques-unes aussi qui sont très très peu actives, très peu animées. J'imagine que c'est normal quand on a un tel réseau.
Oui, nous, on souhaiterait qu'elles soient toutes très actives et qu'elles marchent toutes très bien. Ce qu'on constate, c'est que tout dépend évidemment de nos partenaires. La clé, c'est la qualité de nos partenaires, leurs compétences, leur dynamisme, leur investissement, leur motivation, leur talent et leur capacité à s'approprier le projet. Parce que finalement, nous, on est à Paris, on leur apporte le support, on peut les aider, mais c'est quand même eux sur place qui réussissent. Et c'est vraiment leur talent qui fait la différence. Donc, certains sont plus talentueux que d'autres, ça c'est vrai, je pense, dans n'importe quelle organisation. Ce qu'on constate, c'est que quand le journal est bien menée, le lectorat est au rendez-vous. C'est-à-dire que quand la rédaction, qui est la base, est de qualité, et on cherche toujours un objectif de qualité au petitjournal.com pour fidéliser justement les lecteurs, et puis parce que ça correspond à notre éthique et nos objectifs, on sait que le lectorat est au rendez-vous. Je pense que globalement, on s'est jamais trompé sur ce point-là. En revanche, la difficulté, c'est la transformation commerciale. Vous savez qu'aujourd'hui, la publicité sur Internet garde des parts de marché, mais en revanche, ça se fait sur des bases de monétisation qui sont extrêmement faibles par lecteur.
Monétisation, c'est la manière de gagner de l'argent.
Oui, c'est exactement ça. C'est la vente de publicité. On pourrait dire le rapport entre le chiffre d'affaires par lecteur, en fait, le revenu par utilisateur, comme on dit, qui permet vraiment c'est de ça qu'on vit. Donc, on est sur des niches de marché. Donc, certaines communautés ne sont pas très importantes. Certains partenaires, soit par manque de talent, ou par manque de capacité d'investissement, ou pour des raisons personnelles ou contexte conjoncturel localement, parviennent pas à faire décoller suffisamment l'audience, ou surtout n'arrivent pas à bien mener la prospection commerciale. Et à ce moment-là, évidemment, personne ne travaille pour rien. On est une entreprise privée et nous, on souhaite aussi avoir des revenus de nos éditions. Donc dans ce cas-là, on a des partenaires effectivement qui arrêtent, et on doit rechercher à ce moment-là de nouveaux partenaires. On va dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a un tiers du réseau qui marche très bien, qui en vit. Ils ne sont pas des milliardaires, mais en tout cas, ils peuvent vivre de cette activité. Et puis surtout, on essaie de continuer à développer les outils de façon à ce qu'on puisse encore développer nos chiffres d'affaires, évidemment. On en a un tiers qui est un peu sur la route, parce que le journal a 13 ans, mais le réseau, il a 7-8 ans, et surtout, il y a beaucoup d'éditions qui ont ouvert dans les 3-4 dernières années, donc il faut quand même du temps avant d'installer une marque et un journal localement, et avant de gagner la confiance à la fois des lecteurs et à la fois des annonceurs. Et puis, on a un tiers d'éditions où soit on est sur des marchés qui sont un petit peu compliqués, soit on n'est pas tombé sur les bonnes personnes, soit on les a mal formés, hein, parce qu'il faut pas non plus rejeter la faute que sur les autres. Enfin, en tout cas, il y a à peu près ce tiers-là où, effectivement, on a encore un petit peu de mal à s'implanter. Il y a que quelques marchés où on a un peu jeté l'éponge en se disant que c'était peut-être pas les bons endroits ou pas les bons moments.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Une autre chose que je remarque par rapport à ce réseau, c'est que l'Afrique francophone est très très peu représentée. Je crois qu'il y a Casablanca, c'est ça, simplement. Il y a pratiquement aucune des grandes capitales africaines. Mais à quoi c'est dû, ça ?
Alors, il y a Casablanca, Tunis et Johannesburg et le Caire où on est présent en Afrique.
Là, c'est... Casablanca, Tunis pour l'Afrique francophone,
oui,
si on veut.
Oui, absolument, c'est ça. Alors, c'est pas un souhait de notre part. Ce qu'il faut voir, c'est que le réseau, c'est d'abord constitué par opportunité. C'est-à-dire que c'est un peu la magie de l'Internet. J'ai été contacté par des gens qui m'ont dit, ah, c'est super, le petit journal, on aimerait bien l'avoir dans notre ville. Je dis, oui, mais créez-le. Et puis, voilà. Donc, finalement, on a trouvé, je dirais vraiment par opportunité, au moins les 15-20 premières éditions. Ensuite, on a essayé de se développer sur l'Asie parce que c'était une demande de nos annonceurs, notamment à Paris, puis parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment... moi, j'y ai vécu, donc j'ai vu le dynamisme économique et aussi la présence française progresser. Donc là, on s'est pas trompé. Et puis, on est développé en Amérique latine, un petit peu historiquement, parce que ça a démarré au Mexique et qu'il y a eu des corrélations, même si ça reste un continent. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, cette absence en Afrique francophone, on a eu peu de demandes, en fait, que ce soit sur des villes comme Dakar, sur Abidjan. On a eu vraiment peu de demandes de partenariats, ce qu'on regrette, parce qu'on souhaiterait s'implanter également dans ces pays-là. On pense qu'on peut apporter quelque chose et on est certain qu'il y aura des contenus. Alors, il y a évidemment des pays, des situations complexes. Il y a des pays où il y a eu un moment la grande crise en Côte d'Ivoire avec plus de la moitié des Français quasiment qui sont partis, mais ça a changé. Donc évidemment, on désespère pas. Je lance un appel à ceux qui sont intéressés pour devenir des partenaires du petitjournal.com en Afrique. Nous, on est certain que notre concept peut, en Afrique francophone, peut plaire. Et puis, peut-être que je pense aussi qu'il y avait une maturation du marché sur place, que ce soit en termes d'équipement Internet, et ça, je pense que c'est complètement résolu, et également en termes de marché publicitaire local. Parce que, évidemment, j'ai reçu beaucoup de monde, là, pour le coup, de gens qui souhaitaient être salariés, mais c'est pas notre modèle, on n'a pas les moyens de le faire. On n'a pas non plus ces subventions-là qui permettraient peut-être de lancer le modèle dans un premier temps. Donc, peut-être qu'effectivement, ça a aussi effrayé ces personnes-là, ou c'était pas en tous les cas ce qu'elle recherchait, et ça a limité interdit aujourd'hui notre développement dans cette zone. Mais concrètement, quand on regarde aujourd'hui, là on vient de se lancer à Montréal en juillet 2014, donc ça va être un bon test sur un environnement francophone. Donc on va voir si évidemment les Français sont au rendez-vous, mais si également même les Canadiens francophones sont au rendez-vous, et ça sera également un bon enseignement pour l'Afrique francophone.
Quels enseignements on tire quand, comme toi, on a lancé un projet un peu par hasard, parce qu'on s'est retrouvé en expatriation, et que 13 ans plus tard, ça devient une entreprise, que ça a eu toutes sortes de ramifications, que ça a créé toutes sortes d'histoires, de parcours personnels, de création, etc. Quels enseignements tu tires de cette expérience, toi qui étais destiné donc au journalisme, qui a commencé dans la presse quotidienne régionale et qui te retrouve 13 ans plus tard, après avoir lancé ce site chef d'entreprise?
Alors, à titre personnel, je crois que c'est vraiment pour moi une aventure extraordinaire. J'ai démarré dans ma chambre en envoyant une première newsletter à 100 personnes. Aujourd'hui, on a 500 000 lecteurs. Donc, il y a une forme de fierté quand même, je dois l'avouer. Et puis surtout, une grande satisfaction dans le sens où j'ai beaucoup apprécié cette évolution. Non pas que j'étais arrivé au bout, loin de là, du métier de journalisme. J'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et j'adore ce métier. C'est ma formation, je ne la renie pas du tout. Mais ça m'a... J'ai j'ai trouvé que cette expérience était à la fois très vraiment passionnante parce qu'elle m'a ouvert tout un tas de champs. J'ai découvert des choses très sympathiques comme peut-être le management, le marketing, les relations publiques, et puis des choses un peu plus arides comme la comptabilité ou la gestion ou l'informatique, serveur. Voilà, mais bon, ça m'a permis vraiment d'élargir mon champ d'horizon, et ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus, ce qui continue vraiment de me plaire. Il y a aussi la fierté finalement et la satisfaction de faire grandir son bébé, hein, de continuer de le porter, et puis surtout de voir des gens qui rejoignent ses partenaires, les salariés, qui rejoignent l'aventure et qui chacun apporte leur pierre, apporte leurs idées, et on fait grandir ensemble cette aventure. Et d'autant plus que on est sur, je le disais, on est sur un média en mouvement, on est sur un monde en mouvement en fait. Le petit journal, quand j'ai démarré, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas Skype, et on a intégré tous ces outils, toutes ces mutations, enfin, et le journal tel qu'il est aujourd'hui, il sera pas comme ça dans 5 ans, il sera peut-être que vidéo, enfin, donc on est aussi en permanence en mouvement, et je crois que c'est aussi ça qui me plaît en fait.
Et quels enseignements sur le monde, puisque vous vous adressez aux francophones et aux Français particulièrement expatriés dans le monde, vous êtes présent dans une trentaine de pays, vous êtes en même temps basé en France, un pays qui a peut-être de plus en plus de mal à interagir avec le reste du monde, à se projeter, et en même temps des Français qui s'expatrient, on le dit, de plus en plus, des jeunes qui ont de plus en plus envie de partir à l'étranger. Qu'est-ce que c'est les enseignements de cette tour de contrôle qui est finalement le petit journal sur les Français dans le monde et sur le monde?
Alors déjà, à titre personnel, j'ai vécu 13 ans à l'étranger, je trouve que l'expatriation c'était une immense richesse personnelle parce que ça permet justement d'avoir un autre regard sur le monde, un autre regard sur les autres, et puis un autre regard aussi sur son propre pays. Et je crois que ça permet d'appréhender la mondialisation autrement que ce qu'elle est parfois vécue, ressentie, décrite en France. Et de façon très négative, alors qu'en fait, évidemment, il y a aussi des aspects très positifs, notamment tout simplement le rapprochement entre les peuples, de déjà mieux se connaître, de se connaître, de se parler. Donc moi, c'est vraiment ce que j'en ai retiré, ressenti, et je crois que le petit journal, il correspond aussi à ce monde, c'est-à-dire un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus décloisonné, et qui correspond à justement ces jeunes qui s'en vont, qui vont aujourd'hui chercher le boulot là où il est, la croissance là où elle est, et qui ont pas vraiment de frontières en fait, qui ont pas de frontières physiques avec leur passeport, mais qui ont pas de frontières mentales, et qui ont pas envie d'avoir ces barrières là. Et je souhaite à chacun de pouvoir vivre un jour cette possibilité de s'expatrier, parce que c'est une grande chance. Et ce qu'on voit, c'est que bon, les chiffres le prouvent, il y a 5% au moins de Français en plus à l'étranger chaque année. On vit aujourd'hui dans un village planétaire, et un billet d'avion pour aller au bout du monde, c'est moins de 1000 euros. On n'est plus du tout dans l'expatriation d'il y a 50 ans où on prenait le bateau, on ne sait pas où on rentrait, on ne sait pas où on arrivait, on ne sait pas quand on rentrait. Là aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment dépassé tout cela. Et moi, à titre personnel, et je crois les équipes du Petit Journal, les partenaires du Petit Journal, on se sent bien dans un monde ouvert comme celui-là, dans un monde du partage.
Et on peut aussi espérer que l'expatriation soit aussi accessible à d'autres pays dans le monde, et que les pays où c'est très difficile de sortir puissent, les jeunes qui sont là ou les moins jeunes puissent également bénéficier de cette expérience, de cette chance.
Absolument, et puis il faut que ce soit dans les deux sens aussi, bien entendu, et que la France soit également un pays d'accueil.
Qu'est-ce que c'est les projets d'avenir du Petit Journal? Est-ce que vous allez être racheté? Est-ce que on vous propose de vous racheter? Est-ce que vous allez faire des éditions dans d'autres langues? Vous allez décliner le principe dans d'autres langues? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues?
Alors on a plein de projets, pas celui d'être acheté, en tous les cas vraiment pas à court terme. Déjà on va organiser en mars prochain notre troisième trophée des Français de l'étranger. On a organisé déjà deux éditions en mars 2013 et mars 2014 où on a remis à des lauréats, donc des gens qui ont eu des Français à l'étranger qui ont eu un beau parcours dans différentes catégories, que ce soit entrepreneurs, mais c'est aussi des bénévoles dans le social humanitaire, ça peut être des artistes, ça peut être des Jeune Espoir aussi, on a une catégorie Jeune Espoir, donc voilà, vraiment des gens qui ont eu des parcours exceptionnels. Donc ça va être notre troisième. On est très contents parce que l'idée, c'est justement de donner une vision positive de l'expatriation, c'est de montrer que les expatriés, c'est pas seulement des exilés fiscaux ou des cadres qui se la coulent douce sous les cocotiers, mais c'est des gens qui sont créatifs, qui sont parfois partis simplement avec leur sac à dos et qui ont monté des entreprises, là par exemple, on a remis un prix à une jeune femme qui a monté une fondation en Afrique du Sud pour venir en aide aux orphelins du sida. Elle a aujourd'hui aujourd'hui, ça fait 10 ans que son association existe, et aujourd'hui elle aide, je crois, plus de 800 orphelins, donc c'est juste extraordinaire. Donc voilà, et des histoires comme ça, on se rend compte qu'on en a plein. Donc on voulait vraiment les mettre en avant et montrer à Paris, donner en France une image positive de l'expatriation. Sinon, on a des projets de diversification, puisqu'on, comme je vous le disais, on monétise comme tout le monde, pas très bien sur le web.
Donc monétiser, ça veut dire gagner de l'argent avec son contenu.
Oui, exactement, puisqu'on est une entreprise privée et que on doit pouvoir se financer et financer nos développements. Donc dans les tuyaux, les idées. Donc là déjà on a sorti notre appli. Donc ça c'est une bonne chose parce que ça permet aux lecteurs de pouvoir nous retrouver également sur mobile et sur tablette, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Et on a également un projet de web télé. On voudrait faire en fait une chaîne de l'expatriation où on parlerait de thématiques de l'expatriation. En interviewant des experts, des politiques, des expatriés eux-mêmes, en les faisant témoigner et en les mettant en avant sur notre site, sur YouTube, sur des sites partenaires. Donc ça, c'est quelque chose qui verra le jour en 2015.
Merci Hervé Hérault. On pourra trouver sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien et des informations complémentaires dans un billet signé Mélissa Barra. À bientôt.
Merci Ziad.
L'atelier RFI, c'est de l'internet et de la radio en même temps.
Atelier@rfi.fr.
Where you get the best of both worlds, real people and virtual people.
Ce sont vraiment les internautes qui font le ton du journal et le ton de l'édition du jour. Les gens souhaitent de plus en plus être acteurs des médias.
Voilà, ça enregistre.
Oui.
Est-ce qu'on raconte ?
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va ?
Très très bien, et toi ?
Ça va très bien, merci beaucoup. Tu veux aujourd'hui nous parler de la difficulté du dialogue entre les personnes qui s'intéressent aux villes. Qu'as-tu en tête ?
Écoute, je viens de participer à une réunion organisée à Bordeaux par le club du 21e siècle, celui qui montre comment la diversité est une chance pour la France, autour du thème de la ville intelligente. Il y avait 50 Chinois et 50 Français, tous entrepreneurs et cadres dirigeants d'entreprises ou d'institutions publiques. La France bénéficie d'une bonne expérience dans le développement des infrastructures urbaines. La Chine est le plus gros marché potentiel dans ce domaine et cherche des partenaires partout dans le monde. Dialogue et collaboration sur le développement des villes intelligentes ne peuvent donc que bénéficier à tout le monde. Mais quand on s'y attaque de près, on voit que le dialogue concret est moins facile qu'on ne croit, et je crois que c'est très important d'en comprendre les raisons. Je me permettrai un bref rappel d'abord de l'importance du thème en Chine avec 3 chiffres très rapides. Il y a aujourd'hui 193 villes intelligentes pilotes et 1839 programmes en cours. En 2015 seulement, 2 milliards d'euros seront investis dans ces projets. C'est donc quelque chose d'énorme. Et face à cela, EDF, Vivendi, Veolia, GDF Suez, la SNCF, pour ne mentionner que quelques entreprises françaises, sont sur les rangs avec des offres concernant l'électricité, le traitement des déchets, l'eau, les transports, etc. Mais en nous accueillant au début de la conférence, Fan Chen Meng, qui travaille pour un cabinet de chasseurs de tête, a introduit les débats en disant « Nous aimerions que vous nous aidiez en nous montrant des cas de villes intelligentes françaises exemplaires. C'est l'agglomération dans son ensemble qui l'intéresse, plus que les technologies séparées du type de celles proposées par les entreprises françaises. »
Tu as mentionné, Francis, des difficultés dans le dialogue, dans la compréhension donc entre les participants français et chinois. De quelle sorte étaient ces difficultés ?
Je vais citer le professeur Claude Rocher, qui enseigne à l'Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale d'Aix-en-Provence. Il attribue la difficulté du dialogue au fait que les Français tentent à prendre les problèmes secteur par secteur, alors que les Chinois, qui ont tout compris, dit-il, l'abordent de façon intégrale. Ainsi, la politique urbaine est pour eux un élément clé d'une politique de développement industriel, économique, social et politique, m'a-t-il précisé par mail. Et les Européens, par contre, ont des offres sectorielles performantes et pensent leur politique donc en termes d'offres sectorielles. Lors d'une conférence européenne qui s'est tenue à Amsterdam l'an dernier, Terence Yap, CEO de Smart China, opérateur chinois pour villes intelligentes, avait expliqué aux Européens une approche holistique de la planification urbaine est vitale pour s'assurer que la ville est à l'épreuve du futur. C'est vrai qu'au niveau du discours, beaucoup d'entreprises le disent, mais elles ne le font pas toujours. En Chine, c'est quelque chose d'essentiel et qu'il faut prendre au sérieux et concrètement.
Mais les plateformes que proposent des entreprises comme IBM, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans l'atelier des médias, qui proposent de gérer toutes sortes de fonctionnalités dans la ville, elles vont pas dans ce sens, dans cette vision un petit peu holistique de la ville intelligente ?
Écoute, c'est une bonne remarque que je me suis faite. L'exemple le plus concret, celui dont nous avons parlé, c'est celui de ce qu'a installé IBM à Rio de Janeiro, qui centralise l'action de tous les départements d'une municipalité, mais elle ne répond pas exactement à la demande, tout en étant indispensable pour les entreprises qui ont intérêt à cette approche centralisée et orientée techno, car elles y voient un business model clair, celui de la collecte des données et du management, m'a expliqué Leila Turner, qui est la directrice adjointe de la société française Faber-Novel et qui participait à la conférence. La logique est claire, mais la difficulté devient évidente quand on parle de Smart City et de la Chine. Pour Claude Rocher, la pensée positiviste occidentale privilégie une vision technocentrée et non systémique de la ville comme addition de systèmes techniques, et c'est ce qu'il appelle la collection de smarties. Alors que les Chinois ont une vision stratégique et holistique du développement urbain, les Occidentaux n'ont qu'une vision bien souvent commerciale qui ignore les grands enjeux et peine à intégrer la dimension systémique de la ville. Comme quoi, même quand on parle de technologie, la culture compte. Ce qui me fascine avec les villes, c'est qu'elles le rendent vraiment manifeste.
Merci Francis Pisani. Je rappelle qu'on peut te lire sur ton site personnel francispisani.net, te lire également sur les sites de La Tribune et de L'Opinion. On peut enfin retrouver toutes tes chroniques, toutes tes contributions à l'Atelier des médias sur ton blog de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 362 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Jules Nardouek, Laja Yahyaoui, Simon Decreuse, Pierre Chaffanjon et Ziad Malouf. Une bise à Raphaël Constant qui a quitté l'atelier il y a quelques jours et qui nous écoute en ce moment depuis son lieu de vacances bien mérité. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.